Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue. C'est une mention qu'on trouve à diverses reprises dans les évangiles. Nous savons que tout au long de sa vie publique, même quel que soit l'endroit où Jésus se trouvait, dès qu'il arrivait dans une ville ou un village, c'était le sabbat, comme tous les hommes, comme tout le peuple, comme tous les fidèles, il se rendait à la synagogue. Et au moins une fois par an, il se rendait à Jérusalem pour une des fêtes de pèlerinage. Alors, les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc racontent une seule montée, une seule venue de Jésus à Jérusalem pour la passion. Pour sa passion et sa mort et sa résurrection. Mais nous savons par l'évangile de Saint Jean qu'il est venu au moins chaque année. Il est venu au moins chaque année parce que c'est ainsi qu'il l'avait appris de ses propres parents. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Le fidèle pratiquant, chaque année, que ce soit pour Pâques ou pour une autre fête de pèlerinage, allait à Jérusalem. Chaque sabbat, chaque semaine à la synagogue, chaque année à Jérusalem. Ce sont deux mesures du temps, deux rythmes qui correspondent à deux liturgies, c'est-à-dire deux modes de prière, deux liturgies distinctes. Il y a ce qu'on appelle la liturgie synagogale à la synagogue, qui est une liturgie de la parole, c'est ce que nous vivons en cet instant, où on écoute la parole de Dieu, exactement comme dans la première lecture. Tandis qu'au temple, la liturgie est une liturgie du sacrifice sacrificiel, avec toutes sortes de sacrifices, des sacrifices d'expiation, des sacrifices de communion. Eh bien, ces deux liturgies distinctes, d'une certaine façon, fusionnent. C'est ce qui compose la messe. Première partie, la liturgie de la parole. Deuxième partie, la liturgie du sacrifice, le sacrifice eucharistique. Et dans nos prières, nous pouvons avoir la première, c'est-à-dire la liturgie de la parole, sans avoir la deuxième, en particulier quand il n'y a pas de prêtre pour célébrer l'Eucharistie, mais on peut se réunir pour écouter la parole de Dieu. En revanche, on ne peut pas avoir la deuxième, l'Eucharistie, sans avoir la première, sans avoir d'abord écouté, médité la parole de Dieu. La liturgie de la parole, l'écoute de la parole de Dieu, c'est le point d'entrée. C'est le passage obligé de toute prière chrétienne. Pas de prière véritable sans commencer ou sans au moins écouter la parole. Et même dans ce qu'il y a de plus intime, la confession. Même pour la confession, le rituel demande, si c'est possible, de commencer par une phrase de l'évangile, un texte qui dit « Voilà, voilà, je suis parti de cette parole ou de ce texte ». Mais revenons à ces deux mesures du temps, deux rythmes, chaque semaine, chaque année. C'est ce qui compose la vie chrétienne. Ce sont même les préceptes de l'Église, qui nous demandent d'aller chaque dimanche à la messe et de communier au moins une fois par an, si nous le pouvons, au moment de Pâques, après s'être confessé. C'est la structure de notre vie. C'est le rythme de notre vie, sachant qu'il y a évidemment des événements exceptionnels, des choses qui ne se produisent qu'une seule fois dans l'existence, y compris dans les sacrements, le baptême, la confirmation, le mariage, l'ordination. Et puis surtout, il y a ce que nous vivons tous les jours. Il y a le quotidien, le flux de tous les jours que nous sommes invités à vivre avec le Seigneur, sous le regard de Dieu, poussé, éclairé par l'Esprit Saint. Vous savez, nous appelons ça la spiritualité de l'instant présent. L'instant présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Dieu est unique. Chaque personne est unique. Mais chaque instant, cet instant présent, là, que nous vivons, il est unique, il ne se répétera jamais. Unique. Et il faut pouvoir le goûter. Il faut régulièrement dans notre vie savoir s'arrêter. C'est aussi à cela que sert la prière, tous les jours. S'arrêter pour pas laisser finalement notre vie s'écouler sans y prendre garde. Goûter l'instant présent. Quand nous disons dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il ne s'agit pas d'une nourriture terrestre, il ne s'agit pas d'aliment pour notre corps, ça, c'est plutôt à nous effectivement à travailler, à partager, à faire en sorte de pouvoir effectivement l'obtenir. Saint Paul dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Non, notre pain de ce jour, c'est la parole de Dieu. Notre pain de ce jour, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que si nous pouvions chaque jour lire l'Évangile, lire au moins quelques lignes de la Bible, et de façon à pouvoir nous retrouver, comme en cet instant, ensemble à la messe, pour écouter ensemble la parole de Dieu avec la plus grande attention, dans le silence et le recueillement. Nous sommes une religion de la solennité. Nulle part, vous ne trouverez de telles célébrations marquées par autant de déférence devant la grandeur de Dieu. Le silence de l'assemblée, immobile, avec un rituel, une liturgie, des gestes et des paroles codifiés, qui sont les mêmes depuis des siècles, partout dans le monde. Dans toutes les messes, aujourd'hui, partout dans le monde, ce sont les mêmes textes, les mêmes gestes, les mêmes paroles. C'est une très grande force qui exprime d'abord l'humilité des croyants que nous sommes. Une façon de dire, cela ne nous appartient pas. Nous en sommes les héritiers, les dépositaires, les servants. C'est ainsi que nous honorons la grandeur de Dieu. Alors, certains disent, oh, c'est toujours la même chose. Non, c'est jamais la même chose, c'est unique. Le monde, en revanche, nous reproche souvent de manquer de fantaisie, de manquer de légèreté, et pas seulement dans nos célébrations. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est nous qui sommes coincés? Ou est-ce que c'est le sujet qui est sérieux, qui exige le plus grand sérieux? C'est la vie qui est sacrée. C'est l'amour de Dieu pour chacun de nous qui est sacré. Et puis il y a un aspect de gravité qui vient de nos faiblesses, de nos manquements, nous disons de nos péchés. Nous sommes une religion de la solennité parce que nous sommes une religion du pardon, de la réconciliation. On ne plaisante pas quand on se réconcilie. On n'arrive pas en plaisantant pour demander pardon. Nous sommes une religion de la rédemption, le terme est technique, mais c'est celui qui en réalité figure dans le passage de la lettre aux Hébreux qui est traduit par une libération définitive. Cette libération, c'est la rédemption. Il est effectivement plus clair de parler de guérison. C'est ce que le prêtre, mais chaque fidèle, peut dire à voix basse avant de communier. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne mon corps et mon esprit et me donne la guérison. La guérison ! Le Saint-Sacrement, c'est un remède. C'est le seul remède pour nos blessures les plus profondes. C'est le seul remède pour le cœur malade de l'homme. Le cœur compliqué et malade. Mais l'efficacité de ce remède, c'est comme de tous les remèdes. Ça dépend de notre fidélité aux prescriptions. Pour que la grâce de Dieu agisse en nous, il faut que nous soyons fidèles à sa parole. Parce que nous sommes, avant toute chose, une religion de la parole. Pas du livre, de la parole. La parole d'amour de Dieu pour chacun de nous, pour toute l'humanité. Nous sommes une religion de la solennité, nous sommes une religion du pardon, de la guérison, et nous sommes une religion de la parole donnée par Dieu, pour être gardée fidèlement par l'homme. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, chez lui nous nous ferons une demeure. C'est beau, mais quel honneur! Dieu venant chez nous, faisant chez nous sa demeure. Quel honneur, quelle responsabilité. Il dépend de notre écoute, de notre sérieux, que nous puissions trouver, comme dit notre prière, trouver dans cette communion ici-bas, la guérison pour la vie éternelle. Il dépend de nous que chaque messe du dimanche soit vraiment une relance, le début d'une vie nouvelle. Il dépend de nous que nous laissions la grâce de Dieu agir en nous, son esprit nous éclairer, nous renouveler, nous guider de l'intérieur pour nous apprendre quoi ? pour nous apprendre à aimer. À aimer. Même si nous ne pouvons pas recevoir matériellement, sacramentellement le corps du Christ, nous pouvons, mais même les non-baptisés, nous pouvons tous recevoir sa parole, c'est-à-dire accueillir son Esprit Saint, adorer le Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement de la parole incarnée. Voilà comment il faudrait l'appeler, le Saint-Sacrement de la parole incarnée. Le Verbe fait chair, le Verbe vivant. Je cite souvent cette phrase de saint Augustin qui disait que la Vierge Marie a conçu son Fils dans la foi avant de le concevoir en sa chair. Eh bien, d'une certaine façon, il en va de même pour nous. Il faut d'abord accueillir la parole de Dieu, l'accueillir vraiment, accueillir son esprit pour pouvoir recevoir son corps. Accueillir sa parole pour recevoir son corps.